gros lundi venteux. Je ne sais pas si ça vente de même chez vous, mais ici, c'est comme ça.
Ouais.
Comment ça va, Max?
Ça va bien, toi, mon Jeff?
Ça va super bien. On fait ça différent en ce lundi.
Ouais, ouais. Très intéressant.
Yeah. On a décidé d'y aller avec... parce que tu es un bon collectionneur de cartes. Là. J'aime penser que j'en suis un, mais tu es une coche de plus que moi. Là. J'avais le goût
ouais.
d'aller à ce niveau-là. Là.
Oui, ben c'est écoute, c'est rendu que ça fait partie du sport maintenant, la collection de cartes aussi. Il n'y a pas juste l'amateur qui regarde, mais il y a l'amateur qui collectionne aussi. Je suis un collectionneur de cartes depuis un petit bout, puis il faut que je me calme parce que ma femme va me le dire, mais je collectionne aussi les items qui sont autographiés. C'est quelque chose que j'apprécie grandement. Puis là, on reçoit le meilleur en la matière, celui que l'historien de la carte sportive, oh. Johan, comment ça va?
Ah, ça va super bien, vous, les gars.
Ça va bien, ça va bien. Johan, qui a Sport Ultime Collection à Laval, qui a un magasin de cartes. Il y a aussi du Memorabilia aussi, qui est des items qui sont autographiés. On voit le Wayne Gretzky un petit peu en arrière aussi pour les auditeurs qui sont live avec nous. Johan, explique-nous un petit peu ta boutique, comment ça fonctionne, puis depuis quand que ouais. tu as débuté tout ça?
Oh, j'ai débuté il y a très, 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 très longtemps. Là, il y a plus d'une trentaine d'années, quand il y a eu le boom, j'étais encore un jeune ado et la passion a commencé à partir de là. Oui, j'ai commencé quand j'étais plus jeune parce que bon, j'ai collectionné quand j'étais tout jeune des cartes de hockey comme tout le monde dans les années 70. Et j'achetais des paquets de gomme que mon père m'emmenait au dépanneur. Et la passion a commencé à partir de là. Bon, à mon jeune âge d'ado, j'ai laissé ça pour d'autres choses, évidemment. Et là, je suis revenu à l'âge de 18-19 ans et j'ai jamais lâché ça. J'avais commencé avec des Ken Griffey Jr., les petites cartes. Le baseball était très important pour moi au début de mes premières années de collection. Et puis, plus que les années sont allées, ben, je me suis mis un peu à être multisport. J'ai commencé à vendre des cartes sur eBay à mon compte personnel pendant que je travaillais. Je parle de ça en 1998 pour te donner une idée. Là, on parle de ça il y a 23 ans eBay. Et gentiment, ben, la passion est venue. J'ai décidé il y a 3 ou 4 ans avec Sébastien Hamelin, mon partenaire, d'ouvrir une boutique à Laval, qui était un grand rêve. J'ai laissé la job que j'avais dans un des très grands centres de télécommunications. Et je vis mon rêve tous les jours, venir à la job, pouvoir parler de cartes sportives, dealer là-dedans. C'est le plus beau métier. Et écoutez, on se spécialise ici dans les 5 sports, parce qu'il y en a qui pensent qu'il y en a 4, mais moi, pour moi, le 5e, le soccer, est très important. Je sais que c'est pas tout le monde des fans de baseball qui aiment le soccer, mais c'est un très beau sport qui est en train de monter et on se spécialise sur les 5 sports ici à Ultime Sport Collection.
Est-ce que tu vas, est-ce que tu as d'autres sports que ça? Tu te spécialises ces 5-là, mais est-ce que tu en as d'autres, comme la Formule 1, par exemple, d'autres?
Ouais, tout à fait, tout à fait. J'ai fait une chronique cette semaine dans une radio à Montréal et j'ai expliqué que présentement, l'investissement numéro 1 qu'il y a sur le marché, c'est la Formule 1. Ah. Alors, la F1 est vraiment ce qu'il y a de plus hot présentement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui vont venir, mais présentement, au moment où on se parle, la F1 est le sport le plus populaire, ouais, effectivement.
Ouais, pour donner une idée, je pense que la boîte de Topps Chrome F1, je pense que c'est quoi, c'est 800$ la boîte environ, là, c'est assez dispendieux, là.
Maxime, elle a commencé à 800, elle est rendue à 3000.
Tu vois comment ça va vite, la vie? C'est comme, puis là, Yoad, je vais te diriger sur quelque chose, c'est un peu comme la bourse, les cartes, là, le monde va dire c'est un bout de carton, c'est beaucoup plus qu'un bout de carton parce que c'est comme la bourse, un joueur, est hot pendant 1 an, 2 ans, sa carte va monter, il tombe dans un slump pendant 1 an, sa carte, elle va diminuer. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. Puis, il faut regarder le marché. Tu sais, on pense ici au Québec, le hockey, c'est gros, mais ça vaut pas grand-chose dans le milieu de la carte quand tu compares au soccer, au baseball, au tous les sports où il y a beaucoup d'amateurs. Plus qu'il y a d'amateurs, donc plus qu'il y a de demandes, plus qu'il y a de demandes, plus que la carte, elle va monter. Je me trompe pas, Johan?
À 100%. Le hockey, c'est notre sport, comme ils disent ici, national, mais ça reste un très, très petit marché. Sur les 5 sports, il est dernier. Il est le dernier et de loin, et pas juste d'une petite marge. On parle de beaucoup. Très peu d'amateurs aux États-Unis collectionnent. Pour te donner une idée, on est allé à un show à Las Vegas. Et là, il y a les Golden Knights, là, tu sais, à Las Vegas. Et sur une main, je pouvais compter toutes les cartes de hockey qu'il y avait au show là-bas, pour te donner une idée. Alors, c'est vraiment un sport qui est hyper petit, Et lorsqu'on parle du baseball, ben, le baseball, c'est là où tout a commencé avec la fameuse carte de 1952 avec Mickey Mantle. Si cette carte n'était pas sortie, ben, il n'y aurait jamais eu de carte de baseball ou de collection. Alors ça, c'est la clé maîtresse. Le baseball, c'est le sport numéro un au niveau des cartes. Puis, il y a tous les autres sports qui ont suivi et le soccer qui est devenu mondialement populaire, mais qui est en train de monter gentiment.
Wow. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné pendant la pandémie, parce que j'aimerais ça que tu en parles de ça, le gros boom de la pandémie, où est-ce que le hockey a pris vraiment un step, genre vraiment par rapport aux autres sports?
Oui, il en a pris, mais il n'en a pas pris plus que les autres. Parce que si tu regardes, tu le compares au basket ou tu le compares au football ou même encore au soccer, c'était complètement démesuré. C'est là où il y a eu la plus grosse haute. On pouvait acheter avant la pandémie, je donne un exemple, une carte de Kylian Mbappé qui joue pour le Paris Saint-Germain pour à peu près 5-6 $. Et pendant la pandémie, elle est montée à peu près à 1 000-2 000 $. Alors, il y avait une fluctuation qui était complètement démesurée. C'était le sport qui avait augmenté le plus pendant la pandémie. Oui, le hockey a augmenté. Les McDavid, oui, ce genre de cartes comme ça ont explosé. Et rien à voir avec les autres sports. Quand on compare avec au basketball, les Lucic ou encore, on a bien vu la Mike Trout qui s'est vendue à 3,2 millions de dollars. Oui, le hockey a augmenté, mais pas de la même façon.
Alors nous, rapidement, la pandémie, l'effet pandémie sur les cartes de collection?
Ben, ce qui s'est passé, c'est simple. Écoutez, guys, quand il y a eu la pandémie, la panique totale, je me suis dit, moi j'étais le genre de gars qui a couru pour aller acheter du papier toilette et aller acheter des conserves parce que je pensais qu'on allait vivre la fin du monde, vous savez. Alors moi je me suis dit, qui va venir acheter des cartes? C'est qui? Tu sais, c'est plus une priorité. Oui, c'est bien beau d'avoir une boutique, mais je vais plus jamais en vendre. Mais l'effet contraire a eu lieu. Les gens sont restés chez eux, ils avaient plus rien à faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah, tu sais quoi, je vais sortir mes cartes que j'avais auparavant. Et ça a juste fait un effet boomerang où soudainement, les gens ont recommencé à sortir leur collection, ont suivi les lives. Il y avait plus de sport professionnel. Les gens ont embarqué là-dedans parce que c'était un genre de gambling, d'ouvrir les boîtes, les lives, les breaks et toutes ces affaires. Et personne ne s'en attendait. C'est un des domaines qui a explosé le plus. Et je peux vous dire qu'on roulait à certains moments par rapport à l'année 2019 à plus de 500-600% au niveau des ventes. Wow.
C'est assez hallucinant, ça. Si on tombe dans la valeur des cartes, là, au baseball, là, un top 5 des joueurs qui valent le plus cher présentement à collectionner. Bon, évidemment, je te pitch le premier, Mike Trout.
Non, effectivement, Mike Trout. Mais encore Mike Trout, écoute, si tu parles de valeur à collectionner, ça veut dire ces cartes qui valent les plus chères, c'est sûr que Mike Trout l'est. Mais on s'entend que, tu sais, à chaque année, il y a toujours, il semble avoir quelque chose, les blessures, c'est récurrent. Alors, ces cartes sont quand même un peu à la baisse, mais ça reste des cartes qui sont excessivement chères. Mais si tu prends ta question, je veux juste savoir, est-ce que tu parles de joueurs actifs ou tu parles de joueurs de tous les temps?
Ben, commençons avec les joueurs actifs, puis tu pourras dévier de joueurs de tous les temps par la suite. Mais les joueurs actifs, exemple, que quelqu'un veut se lancer, dire, bon, ben moi, aujourd'hui, là, Johan, tu m'as donné la piqûre. J'ouvre des boîtes, lesquelles que je dois faire attention absolument garder, puis lequel hit que je pourrais frapper et dire, hey, ça vaut de l'argent.
Ouais, ben écoute, c'est sûr que des cartes comme Ronald Acuna, Shohei Ohtani, on peut aller même un petit peu plus loin. Bryce Harper qui vient de gagner le MVP, qui a eu une saison complètement débile, une deuxième moitié qui était incroyable. Ou si tu vas même récemment avec des gars comme encore, parce que ces autographes valent excessivement cher, les Aaron Judge, même si on voit ça et on se dit, bon, il a pas tu sais, depuis sa saison recrue, c'est pas les mêmes statistiques, mais ça reste un gars des Yankees. Et tout ce qui est Yankees, c'est beaucoup d'argent, mais il y a des Juan Soto. Sauf que le rookie class de cette année ne semble pas être ce qu'il y a de mieux au niveau des valeurs, mais on l'a déjà vu dans le passé. Parce qu'il y a eu des Mookie Betts où l'année 2014 était une année où les gens se disaient « Ouf, elle est plate cette année. Regardez comment elle a fini par exploser. » Alors, est-ce qu'un Ryan Mountcastle va devenir quelqu'un qui va être plus constant avec sa moyenne, qui va moins de strikeouts et qui va continuer à frapper avec puissance? Est-ce que un India va commencer à avoir des meilleures statistiques? C'est des gars qui ont de la valeur présentement. Et c'est sûr que c'est des cartes qui peuvent augmenter. Mais je veux dire, il y a tellement de gars différemment, tu sais, comme peuvent prendre de la valeur, mais les gros cinq là que j'ai présentement dans ma tête là, c'est Acuna, Soto, t'as bien sûr Mike Trout, t'as Shohei Ohtani et t'as Aaron Judge qui semblent être vraiment ceux qui ont beaucoup de valeur.
Wow. À quel point, parce que Max, tantôt, il parlait de la bourse avec les cartes, à quel point un moment comme la nomination des MVP puis des Cy Young peut avoir un effet sur les cartes des joueurs, des joueurs comme Harper, exemple, que tu viens de nommer, puis Otani, mais aussi des Robbie Ray et des Burns qui sont moins connus.
Ben, Corbin Burns, j'en avais parlé dans une des chroniques où j'avais dit que c'était peut-être un, on avait vu le début de saison qui était incroyable qu'il avait connu et tout le monde disait waouh, okay, je leur avais dit peut-être c'est un bon investissement parce que les cartes étaient pas chères, effectivement elles ont augmenté. Mais il y a eu un certain moment durant l'année, comme vous l'avez vu, il a eu un début de saison incroyable, il y a eu un slump et après il s'est repris, je pense qu'il y avait une blessure pendant ce temps-là. Mais Robbie Ray, qui s'attendait à ça? Qui s'attendait à ça? Je veux dire, sa carte, moi, je suis convaincu que si je vais chez moi à la maison et que je vais dans mes boîtes de communes, je vais en trouver des tonnes de cartes de recrues qui valaient 10 cents, mais qui ne valent plus 10 cents. Mais il faut que je fasse le travail d'aller les fouiller, de les chercher. Est-ce que ça me tente? Non, mais elles sont là. Okay? Elles sont là. Et c'est des cartes qui sont montées présentement. Je pense que c'est top. Ces cartes de recrues valent à peu près une vingtaine de dollars. Alors, effectivement, lorsque quelqu'un gagne un award, les cartes, le lendemain, elles explosent. On l'a vu avec Bryce Harper. Corbin Burns, oui, évidemment, mais ça a été gentiment durant l'année. Mais tout à fait excellente question. Effectivement, lorsqu'il y a un trophée qui est gagné, les prix augmentent.
Et c'est le temps de vendre. Et c'est le temps de vendre quand tu reçois ça.
Bon, ouais, effectivement. Ça dépend la passion de chacun.
Ouais, exactement, exactement. Ouais. Mais c'est la beauté, je pense, de collectionner des cartes, particulièrement au baseball. C'est que tu vas souvent frapper des gars moins connus ou des prospects. Puis là, tu vas mettre ça de côté, 5, 6, 7 ans, que tu vas ressortir ça, puis tu vas dire, aïe, aïe. Comme ça m'est arrivé avec Aaron Judge, où j'avais sa first card signée, puis que j'ai ressorti ça, j'ai dit, Aaron Judge, j'ai ça, moi. Tu sais, ça a été, au début, tu t'ouvres, il y a une année dans le mineur, bon, c'est un prospect, mais tu mets ça de côté, puis tu réalises que, finalement, boum. C'était quoi ta plus belle histoire, toi, de gars que tu as retrouvé dans tes cartes, Yoann, puis que tu t'es dit, oh boy, ça vaut de l'argent, ça. Puis tu savais
pas. Non, mais, moi, mais c'est ça. Parce que en 2012, je me rappelle, j'avais acheté une boîte de Bowman Chrome et je me rappelle, il y avait deux autos dans la boîte. Et imagine-toi, mes deux autographes étaient, un d'entre eux était Nomar Mazara. OK? Nomar Mazara, on s'entend, il a rien cassé. Mais il y a 3 ou 4 ans de ça, il était avant qu'il commence son baseball majeur, il était passé d'une commune et moi j'avais la Gold Refractor, c'est-à-dire qu'elle est en or, elle est numérotée sur 50 et elle était autographiée. C'est une carte qui valait à peu près 20 dollars et qui est montée à 1000. Et moi je savais même pas que je l'avais, j'avais aucune idée que j'avais ça. Alors j'avais tout mis dans mon dans un fichier Excel toutes les cartes et habituellement je vais regarder voir qu'il y a et je vois Nomar Mazara auto, je dis ça se peut pas. Elle est où? Ça m'a pris à peu près 3 jours pour la trouver dans toutes mes boîtes, pour vous donner une idée, mais je l'ai finalement trouvée. Et j'ai dit, il faut que je vende ça ASAP. Et je l'ai mis sur un forum sur Facebook. Et voilà qu'il y a un gars qui, croit-le ou non, qui m'offre 2 LeBron James recrues pour. Il m'offre une Barry Sanders autographe, le running back. Et il m'offre aussi, je pense, c'était une autre carte, je ne m'appelle pas autographiée, pour la Nomar Mazara. Pour vous donner une idée, là, LeBron James aujourd'hui, là, elles valent à peu près 2500 chacune.
Wow.
Merci. Et Nomar Mazara, je vous le dis pas combien elle vaut.
Wow.
Qui est Omar Mazara, hein, c'est ça, exact. Ouais. J'ai envie de dévier un peu, Max, on a parlé tantôt, mais on va parler d'un petit gars de chez nous, Abraham Toro. Parle-nous de la valeur de sa carte dans les deux dernières années là, avec Houston, la valeur, avec l'échange qu'il y a eu et tout.
Je sais pas si vous vous rappelez, mais Max, je pense que tu étais venu pour la première séance de signature qui a eu lieu avec Toro au magasin. Tu étais là?
Oui, je suis passé, oui.
Ouais, OK, effectivement. Alors, ce qui était incroyable cette journée-là, c'est que Abraham était là, il regardait nos cartes et on lui a sorti quelques cartes qu'on avait de lui qui étaient autographiées. Et il en revenait pas de la valeur que ça valait, surtout ceux qui étaient en parallèle, c'est-à-dire les golds et les blues. Et on en avait une ou deux, on lui a montré, et il dit, ça se peut même pas pourquoi ça vaut autant, tu sais. Et on lui disait, parce que t'es un prospect, peu importe. Tu sais. Mais il en revenait pas, c'était vraiment cool. Mais bon, on sait ce qui s'est passé. Il jouait pas à Houston. Oui, il a eu ce fameux match sans point ni coup sûr où il a été la star, il a reçu la Rolex de Verlander et tout était beau et c'était Cendrillon. Après ça, ça a été un slump et les cartes, tout ce qu'on avait dans les comptoirs, on n'était plus capable de les vendre. Les gens au Québec ici n'en parlaient même plus. c'était un peu triste parce que je sais que Perry, souvent, Perry de l'Expo Fest venait souvent ici, nous parlait, ah, Taureau, vous allez voir, il va faire ça. Mais moi, personnellement, j'avais comme un peu abandonné parce que je voyais qu'il y avait rien qui se passait. Et lui, il me disait, ah, il faut qu'il soit échangé, il faut qu'il soit échangé. Effectivement, il a eu raison. Incroyable lorsqu'il s'est retrouvé avec les Mariners et faire ce qu'il a fait. Et les prix, à quel point ils ont explosé. La demande qu'il y a eu, même sur l'Internet, parce qu'on a beaucoup de cartes sur eBay, on a plus de 126 000 cartes qui sont listées sur eBay, dont plusieurs Abraham Taureau, et je peux vous dire, on les a littéralement toutes vendues, oui, au Québec, au Canada, mais à travers les États-Unis aussi, où il y a eu énormément d'intérêt pour Abraham Taureau.
Ah ouais, parce que je regardais ça, moi, au début, là, quand que les cartes ont sorti sa first card, en fait, là, c'était pas achetable. C'était, tu sais, je voulais quand même une signature puis une numérotée en même temps. Bon, il y en avait beaucoup de reflecteurs qui étaient un peu chamoirés sur la carte pour ceux qui connaissent moins ça. C'était pas achetable, là. Ça montait, là. C'était du 300, du 400, du 500 $, ça montait vite. Puis le seul petit défaut à Abraham, c'est que sa signature est pas belle. Là, il va falloir qu'il réapprenne à signer. Ben, sa signature, c'est un barbeau. Mais ça, c'est une autre étape. Ça, faut pas qu'elle change à cette heure-là. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte à collectionner? Je vois que tu as beaucoup de boîtes en arrière, là. C'est quoi la grosse tendance présentement là, au niveau baseball en carte de.
Présentement, ce qui est vraiment sorti cette semaine, c'est le Stadium Club Chrome. Alors, pour ceux qui n'y connaissent pas, c'est les plus belles photos au niveau des cartes. C'est vraiment spécialisé. Ils ont vraiment toujours fait l'accent sur la photographie. Alors, au niveau de la photographie, les prises qui ont été prises, c'est toujours des photos spectaculaires. Et là, c'est la version Chrome. Alors, c'est la version qui est un peu métallisée. Écoute, Max, elles sont juste débiles. OK, en tant que fan de baseball, tu regardes ça, tu regardes les photos, il y en a des horizontales, il y en a des verticales, mais c'est toujours des sketchs spectaculaires, des élans. C'est pas des photos vraiment de base, c'est vraiment les plus belles. Alors, présentement, c'est le produit de l'heure qui a, bien sûr, on a connu pendant l'année tous les Bowman et les Bowman Chrome, où il y a les first rookies, comme tu parles, ceux qui vont devenir éventuellement des prospects pour le baseball majeur. Alors, cette année, je pense, tu avais entre autres, c'était qui encore? Il y avait Austin Martin qui était très collectionné, qui était avec les Blue Jays et qui a été échangé aux Indians. On avait plein de personnes qui étaient vraiment intéressantes dans le Bowman Chrome, mais on verra ça à long terme, peut-être dans 2, dans 3 ans. Mais pour les gars qui jouent cette année, entre autres, le produit le plus hot, c'est vraiment le Stadium Club Chrome. Je peux vous montrer, elle est juste derrière moi. C'est ça, la boîte. Alors, vous pouvez la voir, elle est juste là. Et il y a un autographe par boîte et plein de parallèles. C'est vraiment un produit de l'heure présentement, définitivement.
Puis, on parle d'une valeur de combien pour les gens qui ne connaissent pas ça du tout?
Valeur au niveau de la boîte?
Oui, de la boîte.
C'est à peu près, je te dirais, dans les alentours de 180 plus taxes. Mais pour ceux à qui ça intéresserait, je fais la promotion, on aura un spécial Black Friday, où les boîtes seront à 150 taxes comprises cette semaine. Alors, on va en avoir quand même pas mal. Et c'est une promotion. Et honnêtement, c'est impossible que vous ayez moins au niveau de la valeur que ce que vous allez avoir dans les boîtes.
Excellent. Les photos, je collectionne du hockey, mais aussi du baseball. Du hockey, c'est avec un ami. Puis à chaque fois qu'on ouvre du baseball, là, mon ami a toujours la même réflexion. Les cartes de baseball sont hallucinantes. Au niveau de la qualité de la photo, la qualité de la carte, l'effet de profondeur qu'il y a, c'est magnifique. Juste pour guider nos auditeurs un petit peu, Johan, fais-nous rêver un peu, là, à partir de combien on peut s'acheter une boîte, puis ça va jusqu'à combien une boîte de cartes de baseball, exemple?
J'ai peur d'utiliser le mot illimité, mais je pense qu'on est rendu là. Et là, ouais. Tu vas me dire, mais Johan, t'exagères, illimité, mais je vais vous le dire pourquoi illimité, et c'est assez simple. Oui, on peut acheter une boîte à partir d'à peu près aujourd'hui. Ça peut coûter absolument rien. Des boîtes des années 90, on en trouve encore à 15-20 $, mais il faut pas s'attendre à quoi que ce soit là-dedans. Il n'y a pas de valeur. Mais si on prend une boîte de l'année 2021, il y a des boîtes comme Opening Day qui valent à peu près 70, où on a des chances d'avoir des autographes, des petites choses. C'est assez intéressant. C'est un produit qui est quand même assez beau. Et lorsqu'on parle de boîtes qui sont inaccessibles, écoutez, un paquet de 1952 Tops, un paquet là, pas une boîte, juste un paquet qu'on ouvre qu'on n'ouvrirait pas, mais qui est encore scellé, qui est garanti, qui n'a jamais été ouvert, peut valoir à peu près $500,000. Juste le paquet. Alors, imaginez. Ah non, oubliez la boîte. OK, je sais que je me rappelle, il y a quelques années, il y avait la plus grande trouvaille avec Mr. Mint qui avait trouvé une caisse, pas une boîte, mais une caisse de 20 boîtes à l'intérieur de 1952 Temple. C'est sûr qu'à l'époque, il avait ouvert, il les envoyait à PSA et c'est lui qui a les records de plus de plus haut grade de Mickey Mantle qu'il y a eu de cartes recrues. Mais aujourd'hui, si on avait cette caisse qui était fermée, pas ouverte, je pourrais pas vous donner de valeur, mais je dirais facilement quelque chose comme 50-100 millions de dollars. Et j'exagère pas quand je le dis. Alors, tu vois un peu la différence quand je dis illimité. Bah, ouais, effectivement, pour certaines personnes, 50-100 millions, je pense que ça l'est encore. Pour ce qui est de cette année 2021, Transcendent, c'est comme un coffret spécial que Topps fait, où il y a une invitation pour aller à Topps. Il y a des cartes spectaculaires à l'intérieur. Je pense que ça vaut à peu près entre 10 et 15 000 $ la boîte.
Tu réussis-tu à en avoir à ton magasin, ça? Parce que ça doit être assez limité. Ouais, c'est ça.
Impossible. J'ai pas accès à ça.
C'est assez fou, ça, hein, parce que le monde des magasins de cartes explose présentement. Il y en a beaucoup qui poussent. Mais c'est difficile d'avoir accès à tout ce que Topps offre puis tout ce que Upper Deck offre dans ce domaine-là, n'est-ce pas?
C'est encore pire avec Panini. Tu sais, Panini, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils font des cartes de baseball, mais n'ont pas la licence du baseball majeur. Ils ont la licence de l'association des joueurs. Alors, ils ont des cartes qui sont spectaculaires et qui sont super belles, mais on retrouve pas les logos sur les chandails ou sur les casques ou sur les cartes. Non, mais il y a quand même, c'est un produit quand même qui est licencié par l'association des joueurs. Et trouver les boîtes de Panini, c'est le plus gros. C'est simple. J'ai l'impression qu'ils négligent le marché canadien. Ils veulent aller exploiter le marché asiatique. Ils trouvent qu'il y a beaucoup plus de potentiel que le marché canadien. Et malheureusement, on reçoit des boîtes au compte-gouttes.
Je te lance un peu sur ça. Je fais un ricochet avec ça, mais il y a plusieurs façons de collectionner. C'est pas juste d'acheter des cartes puis de déballer des paquets puis j'ai une belle carte. Parle-nous donc des différentes façons. Moi, par exemple, j'ai une boîte de football qui date d'un peu plus qu'un an ici. Je la garde justement pour ça. Mais parle-nous des différentes façons là, de collectionner.
Ouais, tout à fait. Et je pense que je l'ai déjà mentionné dans le passé. La meilleure façon d'investir dans les cartes sportives, c'est de garder les boîtes non ouvertes. Maintenant, il faut avoir cette force de dire je vais pas la déballer parce que moi je suis pas capable. Je vous le dis là honnêtement, il y a plein de gens comme moi qui sont pas capables de garder une boîte pas fermée. Je suis capable de la garder pendant une semaine et après je suis dans mon lit, je me dis non, elle est en bas, il faut que j'aille l'ouvrir. Alors, mais le meilleur investissement, c'est vraiment de la garder fermée parce que ces boîtes, le plus qu'on va dans le futur, le plus qu'il y en a pas et elles sont déballées tous les jours. Ça fait que même si, je vous donne un exemple, vous prenez une boîte de 1985 Topps, OK? 1985 Topps, où il y a Mark McGwire recrue, qui est une carte à peu près d'une vingtaine de dollars. Ben, la boîte non ouverte vaut à peu près 1000. Et vous allez me dire, ouais, mais je vais jamais avoir 1000 dollars de valeur. Mais elle vaut 1000 dollars parce qu'elle n'a pas été déballée. Et si vous la déballez, ben, vous perdez votre argent. Mais le fait qu'elle n'ait pas déballée, c'est ça ce qui fait qu'elle a augmenté et qu'elle prenne de la valeur. Et c'est la même chose pour tous les produits qu'on retrouve. Les boîtes de 2018 avec Acuna et Soto et Otani ont quadruplé et ont même 5 fois le prix de ce qu'elles se vendaient initialement. Alors, les gens qui ont gardé les boîtes non ouvertes de ces années-là ont explosé. Effectivement, ça, c'est une façon de collectionner. Faire des séries complètes, c'est une autre façon de collectionner. Collectionner un joueur spécifique, c'est une façon. Les meilleurs stars, les autographes, on peut collectionner de toutes les façons qui vous plaisent. Là, c'est illimité aussi.
J'ai deux questions sur la page Facebook. La première, je ne sais pas si tu vas être capable d'y répondre, mais il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une carte Anthony Volpe des Yankees, là, j'espère que je l'ai dit bien, gradée 9,5 sur 10 Beckett. Il veut savoir, est-ce que tu sais à peu près combien ça peut valoir?
Comme ça, par cœur, non, mais je sais que Anthony Volpe est une recrue. Il y a eu sa Bruce Bowman qui est sortie cette année. Alors, c'est un des top prospects, effectivement, dans l'organisation des Yankees. Combien elle vaut comme ça? Écoutez, je suis pas un encyclopédie. Il faut que j'aille vérifier sur eBay comme tout le monde le font. Mais la meilleure façon de vérifier la valeur des prix des cartes, c'est d'aller dans les soldes, pas dans ce que les gens demandent, mais d'aller sur eBay. allez regarder dans les solds, qu'est-ce qui s'est vendu récemment dans les dernières deux semaines, et ça va vous donner la meilleure façon de déterminer la valeur d'une carte.
Ouais, puis j'ai une autre question un peu plus comique, mais peut-être qu'ils vont me dire que ça se fait encore, mais j'ai un collègue à moi, Pascal, Jean, qui demande s'il y a encore des petites gommes roses dans les paquets.
Ça, malheureusement, ça n'existe plus. L'on fait il y a quelques années, je pense, il y a à peu près une dizaine d'années max. Tu te rappelles ça, je pense, dans les produits héritage. Ils ont voulu faire une version un peu rétro, mais cette fois-ci, ils avaient mis la gomme dans un genre de plastique pour pas qu'elles endommagent les cartes, pas comme à l'époque où elles étaient complètement collées sur les cartes. Mais aujourd'hui, malheureusement, non, ça n'existe plus. On le retrouve pas. C'est vrai que c'est très nostalgique, mais on voit pas ça.
Mais quelqu'un qui a un paquet de ça chez eux, est-ce que ça a une valeur aujourd'hui, les paquets comme ça?
Non, mais il y a plein de produits qui existent encore, qui n'ont pas été déballés. J'en ai ici des boîtes. Je peux vous montrer. Attendez un instant. J'ai une boîte de 90 tops. Elle est quelque part dans le magasin. Ça vaut pas une fortune, mais effectivement, à l'intérieur, il y a le paquet de gomme à l'intérieur. Non, ça vaut pas. C'est des cartes qui ont été surproduites. Ça vaut pas, malheureusement, plus que ça.
Ouais, souvent, tu dois avoir dans ton magasin des gens qui arrivent avec des cartes. Si tu pourrais nous expliquer là, la période dans l'histoire où il y a eu une surproduction de cartes rapidement pour nos auditeurs qui valent pas grand-chose, malheureusement, aujourd'hui.
Ouais, écoute, 90% des gens qui rentrent au magasin pour me dire « j'ai des cartes de hockey ou de baseball ou peu importe c'est quoi », c'est la période du boom, ce qu'on appelle le « junk wax era ». Alors, c'est vraiment le « junk wax », le wax pour les boîtes qui ont été produites en des millions et des millions et des millions d'exemplaires. Cette période commence à peu près dans le baseball, parce qu'on va parler de baseball, à peu près des années 88 jusqu'à 95. Alors, cette période-là, de 88 à 95, la quantité de cartes qui a été produite au baseball est mirobolante. Il n'y a jamais une quantité qui a été faite et produite de même. Ce qui fait que les cartes recrues habituellement de cette période ne valent absolument rien. Bien sûr qu'il y a des exceptions. La 89 Upper Deck, Ken Griffey Jr., la numéro 1, c'est une carte qui est collectionnée, c'est une légende, mais pour dire que ça vaut à ce point-là quelque chose, ils disent qu'il y a à peu près plus de 2 millions de cartes qui ont été produites, quand même de Ken Griffey numéro 1, mais c'est une carte qui vaut à peu près dans les alentours de 80$. Alors, tout ce qui a été fait entre 88 et 95, malheureusement, ça vaut pas grand-chose, mais il y a quand même quelques exceptions durant cette période-là.
OK. Ça achève, la demi-heure, ça passe vite, puis je te mentionne déjà qu'on va te réinviter parce que c'est trop intéressant, puis il y a plein de places qu'on peut aller là-dedans. Mais j'ai envie de t'entendre, vite fait, selon toi, est-ce que les joueurs des Rays présentement, les Arrows Arena, les Franco, est-ce qu'ils prennent de la valeur au Québec, à Montréal, à cause des rumeurs peut-être de la garde partagée? Là?
Très, très bonne question. C'est assez surprenant, mais les collectionneurs, non. Je le vois pas ici au magasin, des gens rentrer me demander « Écoute, waouh, je rêve, t'imagines, aller voir Wander Franco dans l'uniforme de peu importe comment cette équipe va s'appeler au centre-ville. » Et on s'entend, c'est un des plus grands prospects qu'il y a présentement dans le baseball majeur. C'est un talent exceptionnel et on le voit par le prix de ses cartes. Et malheureusement, ici au Québec, j'ai pas encore senti au niveau des collectionneurs cet engouement encore pour les Rays. Chacun a sa propre équipe. Hein. T'sais, moi, un, il te dit « je suis un fan des Dodgers, l'autre des Red Sox, l'autre des Yankees ». Pour le moment, ça reste comme ça. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une équipe qui va venir ici, qui va jouer à Montréal, je sens pas qu'il y aura encore cet engouement.
OK. Puis est-ce que tu as vu un engouement pour Buster Posey avec l'annonce de sa retraite?
Ben, c'est sûr que Buster Posey, les cartes ont augmenté le jour où il est rentré au temple de la renommée. Mais ce qui est surprenant, c'est pas Buster Posey qui a apporté de l'intention. D'après vous, c'est qui? Lorsqu'il a appelé, je vais poser la question à Max. Tiens, Max, quand il a annoncé sa retraite, qu'est-ce que tu crois qu'il s'est passé avec quelqu'un, ces cartes? C'est qui? T'as dit quelque chose?
Derek Jeter?
Joey Bart.
Ah ouais?
Joey Bart, le catcher des Giants.
Oui. La recrue, lui, s'est explosé.
Alors, lui, qui était le 18e prospect selon le baseball majeur, ben, c'est sûr qu'on se posait toujours la question, qu'est-ce qui va se passer? C'était le deuxième choix overall, si je me rappelle bien, en 2019. Ouais. Et bon, tout le monde disait que ça allait être une superstar, mais il y avait un problème, c'est qu'il était un catcher, il est derrière Buster Posey. Alors là, présentement, la porte s'est ouverte. Je pense que la job va lui être donnée. Et lui, ses cartes ont augmenté. C'est sûr qu'il y a eu cet engouement pour Buster Posey où on pose la question, est-ce que c'est un Hall of Fame ou ça ne l'est pas? On regarde ses chiffres et on se dit, on se pose la question. Mais lorsqu'on regarde tous les awards qu'il a gagnés et que c'est un catcher, ben, de ce que j'ai lu, moi, c'est qu'apparemment, ça serait unanime et qu'il rentrerait au temple de la renommée. Alors, voilà.
Ouais, je pense que c'est bien mérité. Johan, si on veut t'encourager, passer au magasin, est-ce que tu peux nous donner l'adresse exacte de ton magasin puis où est-ce qu'on peut te trouver sur eBay?
Ouais, tout à fait. Alors, nous sommes situés au 1785 boulevard Curé-Labelle à Laval, à Chaumédée. Je peux vous le dire que ici, avec John, Sébastien et moi, on est vraiment des connaisseurs de baseball. On connaît notre affaire. Et si vous avez moindrement la passion là-dedans, venez ici au magasin. On n'est pas vraiment des spécialistes juste de cartes de hockey. Vraiment, même au baseball, on connaît notre chose. Et pour ceux qui peuvent pas se déplacer au magasin, Ultime_Sports_Collection sur eBay. C'est plus de 126 000 cartes présentement qui sont listées, dont plus de 55 000 cartes de baseball. Alors, on a tout un inventaire.
Ouais, vraiment cool.
Puis ceux qui veulent se lancer là-dedans, là, j'encourage à aller au Ultime. Là. C'est agréable. On est bien reçu. Il y a du soccer, il y a du basketball, il y a du hockey, il y a du baseball, il y a de la F1, il y a tout ce que tu veux. Puis si tu ne le trouves pas, Johan va t'aider à le trouver. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'encourage à y aller.
Ouais. Merci beaucoup. J'apprécie.
Un gros merci, Johan. Puis comme j'ai dit tantôt, on va te réinviter parce que à chaque jour ou à chaque semaine, je pense qu'on peut en parler parce qu'il y a tout le temps des événements dans le sport qui fait qu'on peut parler justement d'une carte ou d'une augmentation de valeur ou baisse de valeur. Puis un jour, j'aimerais ça qu'on parle de la nouvelle tendance avec les mini-vidéos qu'on peut acheter, nouvelle façon de collectionner.
Les NFT,
je pense qu'on peut aller là éventuellement.
Va falloir merci, Johan. Parce que moi, je comprends pas ça.
Moi, je t'expliquerai ça. Moi aussi, j'ai eu de la misère.
Okay, parfait.
Un gros merci, Johan. Right. J'invite, avant de te laisser aller, j'invite les gens à s'abonner à la page Facebook du show du matin. Il y a un concours Movember. Je prendrai pas 10 minutes pour l'expliquer ici, mais allez juste voir. C'est un petit concours. On fait tirer des casquettes, des tuques de baseball, pas des casquettes, mais des foulards et des tuques de baseball Québec. Et on est disponible sur toutes les plateformes audio. Martin, que vous ne voyez pas et n'entendez pas, va mettre l'audio sur dès midi, en fait. Donc, ceux qui veulent écouter l'entrevue dans l'auto, dès midi. Merci, Johan. On se reprend prochainement. Merci,
très
Max.
Bientôt.
On se revoit mercredi avec Danny Dubé. Salut tout le monde.
Salut.
De la famille H2O Web Media.